Père Jacques Suedo, bonjour, bienvenue sur Radio Maria.
Merci bien. Bonjour. Alors, nous devons parler de début et de l'origine de la bioéthique. Alors, ce mot de bioéthique fait partie désormais de notre vocabulaire, on l'emploie continuellement, on parle tout le temps de débats, de conférences, mais que veut-il dire au juste et quelle est son histoire? Alors, à la base, il faut revenir quand même sur la notion de morale. Qu'est-ce que c'est que la morale? C'est l'activité de la raison humaine qui va chercher à établir des principes pour vivre bien, vivre humainement, en conformité à ce que cette raison nous indique comme but, comme juste finalité, juste but de nos actions. Alors, dans la morale, il n'est pas de question de valeurs contingentes, transitoires, relatives, mais quand même du bien et du mal. Donc, des critères qui ont une certaine valeur absolue, obligatoire, valable pour tous les temps et toutes les époques, d'une façon permanente. Et on y reviendra. Alors, cette définition suppose résolue en fait une première question. Quel est le bien de l'homme? Ça veut dire que la raison est capable de nous indiquer un bien, et donc une bonne voie, un bon comportement, et nous ne le créons pas. Nous trouvons ces notions déjà en nous-mêmes par notre propre nature humaine. En deuxième point vient l'éthique. Alors, l'éthique n'est pas la morale. L'éthique, c'est une réflexion argumentée en vue du bien agir. Alors, elle va s'interroger sur quelles sont les valeurs, les principes qui devraient guider notre action précise à ce moment-là, dans ce cadre, dans cette situation. Et donc, à ce moment-là, d'agir conformément à ces principes. Sa visée est pratique. Et en bioéthique, on va donc avoir association des deux, une morale et une éthique. Alors, comment la définir? Il y a une définition que donne l'encyclopédie de bioéthique américaine qui l'a dit, c'est une étude systématique de la conduite humaine dans le cadre des sciences de la vie et de la santé, examinée à la lumière des valeurs et des principes moraux. Alors, retenons, c'est une étude, c'est donc une science qui établit ses propres critères. Et elle va étudier quoi? La conduite humaine dans le domaine des sciences biomédicales, c'est-à-dire c'est un domaine très vaste puisqu'il touche à la fois la biologie, les laboratoires, les centres de recherche et la médecine, le contact avec le patient. Et on va voir les deux faces, non seulement la face du médecin, mais aussi la face du bénéficiaire, du patient. Et ceci va se faire non pas sous forme de sentiments ou de ce que je pense au moment donné, mais sous forme de valeurs et de principes sur lesquels on a bien réfléchi et qui nous donnent une base. Et donc d'un critère, d'un bien et d'un mal. Cela ne se limite pas à une étude, justement. L'étude est indispensable, car la bioéthique est pratique. Elle va chercher à orienter cette action humaine dans le domaine de la biologie et de la médecine. Pourquoi? Pour le bien de la personne humaine, pas pour le bien d'une institution ou autre, non, ou d'une idéologie, pour le bien de la personne humaine dans son humanité. Et ce qu'elle va essayer de faire, cette bioéthique, ça va être de dégager des lignes guides, des orientations qui permettront aux médecins et aux patients de se diriger dans telle ou telle situation d'une façon conforme aux valeurs et aux principes. Alors attention, la bioéthique ne donne pas de loi. Ce seront les gouvernements ou les parlements qui les feront. La bioéthique donne des lignes guides, des orientations. Donc il y aura toujours deux temps en bioéthique. Un premier temps de réflexion où on pose le problème et on essaye d'indiquer un peu les lumières et les ombres. Et un deuxième temps où on va essayer de guider après l'agir humain dans ces problèmes. Alors, quand est-ce qu'elle a commencé? Elle est récente, elle date des années 70. Auparavant, durant des siècles, elle a été précédée par ce qu'on appelait la morale médicale. Sont donc des racines très anciennes, et on peut commencer avec l'enseignement d'Hippocrate, qui était un médecin grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, sur lequel d'ailleurs on connaît peu de choses, si ce n'est qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a fait tout un ensemble, le Corpus Hippocraticum, de textes, justement pour guider les médecins de son époque. Et il reste valable parce que la nature humaine n'a jamais changé depuis les Grecs. Pour lui, il voit les choses sous forme d'un triangle. D'un côté, il y a le patient, et le patient, ce n'est pas simplement une collection d'organes. Pour Hippocrate, c'est un corps et un esprit incarné et un corps spiritualisé. Et donc, il va s'adresser à une personne. De l'autre côté, on a la maladie, qui est un phénomène de la nature, qui est gouverné par des lois naturelles, et auxquelles on doit avoir des réponses naturelles, qui passe par ce qu'est capable de faire la nature. Entre les deux, on a le médecin qui cherche à aider la nature et en même temps à servir le patient. Alors le médecin doit être avant tout, pour Hippocrate, concerné par son patient, par son malade, et pas d'abord par la maladie. Il va d'abord voir un patient et puis bien sûr il cherchera une maladie. Et Hippocrate recommandait aux médecins la sagesse, la réserve, la modestie, la décence, la générosité, la franchise et de savoir consulter avec les autres médecins. Il avait établi trois principes qui sont toujours valables. Le secret professionnel, le médecin n'a pas à raconter au dehors ce qu'il a vu ou ce qu'il a appris de son patient. Deuxièmement, l'égalité des soins envers tous. Le médecin doit traiter tout le monde. Et ce qu'on a fait durant des années, on faisait payer les riches et on faisait pas payer, ou moins payer les pauvres. Et le souci de ne pas nuire. Avant toute action, d'abord ne pas nuire. Et ces principes restent fondamentaux. Alors le christianisme qui est venu par la suite a adopté avec une très grande facilité cet enseignement humain d'Hippocrate. Mais il a ajouté une chose, c'est qu'il a rehaussé la qualité de la relation entre le médecin et le patient avec la figure du Christ médecin. J'étais malade et vous m'avez visité. Et donc le médecin, c'est celui qui va considérer son patient non pas comme encore une masse de chair et d'os, mais comme le Christ lui-même, notre Seigneur. Et au fond, la grande devise, ça sera servir le malade pour servir Dieu. Et c'est pourquoi les médecins seront des religieux durant très longtemps, que les hôpitaux étaient des institutions de l'Église, etc. Alors par la suite, l'éthique hippocratique, ou éthique médicale, est devenue un peu un code de bonne pratique. Et elle a continué comme cela, sans grand changement, simplement qu'au XVIIIe siècle, les Anglais en particulier y ont ajouté l'aspect du gentleman. Le médecin doit être un gentleman, quelqu'un de correct, quelqu'un qui ne va pas crier après le malade, quelqu'un qui va essayer de le comprendre, quelqu'un qui va être discret, etc. Et on aura des grands médecins comme Thomas Percival ou John Gregory qui vont écrire les premiers codes d'éthique médicale, le Code of Medical Ethics. Et déjà, on voit que ces notions viennent du monde anglo-saxon et pas de notre monde européen. Alors cette base hippocratique demeura inchangée jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Or, beaucoup de choses se sont passées durant et après la Seconde Guerre mondiale. Et cette bioéthique hippocratique a paru dépassée, paternaliste, insuffisante. Le patient devait pouvoir émettre son opinion, participer au traitement. Et c'est ce mouvement qui est parti des campus américains qui a amené l'érosion et finalement l'abandon du système hippocratique au nom de la capacité du patient de décider et de juger. Ce qui peut-être a été fondamental pour le démarrage de la bioéthique a été 1946, le procès de Nuremberg. dans le procès des médecins nazis à Nuremberg, 46-47, contre 23 médecins et administrateurs allemands coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, le Monde apprit que des médecins qui avaient formulé, juré, le serment d'Hippocrate de défendre la vie s'étaient tombés dans des pratiques complètement inhumaines, ne respectant pas l'homme. Et du coup, un certain doute a commencé à s'introduire dans les esprits sur le caractère un peu sacro-saint de la médecine. Au lendemain du procès de Nuremberg, les éléments juridiques qui avaient servi durant son procès ont été rassemblés pour former un code, ce qu'on appelle le code de Nuremberg, qui est fondamental et qui reste la base de notre réflexion. Ce code avait 10 points, je ne vais pas trop les aborder, mais en premier lieu, la nécessité du consentement du sujet à toute expérience. Deuxièmement, cette expérience doit donner des fruits, elle doit être positive, elle ne doit pas faire souffrir, on doit avoir un risque proportionné, les médecins qui vont diriger telle ou telle expérience doivent être des professionnels avec une conscience professionnelle. Le malade lui-même, le sujet d'expérience clinique, doit pouvoir se retirer à tout moment. Par exemple, aujourd'hui, en ce moment, nous avons beaucoup d'expériences cliniques sur le fameux vaccin du Covid. Et donc, dans ces expériences cliniques, des volontaires vont se soumettre au vaccin, mais ils ont le droit de se retirer de l'expérience quand ils veulent. De ce code de Nuremberg sont nés toute une série de codes médicaux que je vous épargne, et en particulier la déclaration d'Helsinki, qui est la déclaration de l'Association médicale mondiale et qui est très importante. Alors on avait un code, on avait des bons principes, est-ce qu'on les a suivis? Et c'est là qu'est venu le problème. En fait, aux États-Unis, qui était quand même l'élément en pointe là-dedans, on n'a pas fait attention tellement. Parce qu'on a dit, bah, ce code de Nuremberg, c'est pour les nazis, c'est pour ces mauvais. C'était très pratique, les nazis. Du coup, on devenait de blanches colombes. Et on a appris par la suite que beaucoup de choses anormales se passaient dans le domaine médical. Par exemple, en 1963, au Jewish Chronic Disease Hospital à Brooklyn, on a appris que des personnes âgées, des vieillards qui n'avaient pas de défense, avaient reçu des cellules cancéreuses pour l'expérimentation. De 1955 à 1971, dans un hôpital hospice pour enfants handicapés, à Willowbrook State Hospital, à Staten Island, à New York, on a appris que des enfants handicapés avaient été injectés avec rien de moins que le virus de l'hépatite pour voir ce qu'allait se passer. Enfin, on a appris plus tard, en 1972, que depuis pratiquement avant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 70, les personnes qui étaient lépreuses avaient été réunies ensemble à Tuskegee, Alabama, c'était essentiellement des Noirs américains, pour observer la maladie. Très bien, on l'observait. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, on a eu des antibiotiques et la maladie pouvait être traitée. On a continué à les observer sans les traiter. Ce qui fait qu'en 1966, Henry Beecher, qui était un anesthésiologiste à Harvard Medical Hospital, a jeté une bombe dans ce domaine médical en publiant un article qu'on appelait « Ethics on Clinical Research » où il dénonçait tous ces abus, tous ces excès qui se faisaient avec la bénédiction du gouvernement dans le domaine biomédical. Il dénonçait 22 expérimentations cliniques en cours où les abus, où les patients n'étaient pas informés de ce qu'on leur faisait et on les traitait comme des cobayes. De ce scandale est issu tout un travail par le Sénat américain qui a nommé une commission spéciale qui a issu un rapport, le Belmont Report, qui est le premier corpus très organisé d'éthique médicale, dans lequel on mettait en évidence 4 grands principes. Le respect de l'autonomie, de la libre décision du patient. Le bénéfice, l'intervention médicale doit apporter un bénéfice proportionné avec des risques, ne pas nuire, maximiser les bénéfices et diminuer les effets contraires, et la justice, c'est-à-dire que les soins médicaux doivent être ouverts et abordables par tous. Et donc, qu'il va y avoir une juste distribution des bénéfices et des charges. Entre-temps, se déroulait la révolution biomédicale de 1945 à 1970. La Seconde Guerre mondiale, avec tous ses méfaits, avait apporté de grands progrès en médecine militaire et donc en médecine, qui se sont manifestés d'abord par les antibiotiques. La pénicilline, qui avait été découverte longtemps avant par Alexander Fleming en 1928, commence à être employée par les Américains durant la guerre en 1943, sous couvert d'un secret médical, secret militaire. Et puis finalement, elle devient accessible au public et on commence à la fabriquer en grande échelle en 1948. Au début, on a besoin de toutes petites doses qui font des merveilles. Des infections comme les endocardites cardiaques qui amenaient la mort des enfants sont guéries très rapidement. Et donc, c'est l'étonnement devant ces antibiotiques. En 1947, la streptomycine arrive et permet de traiter la tuberculose. Elle va amener, cette streptomycine, la fermeture de tous ces sanatoriums qui s'étaient développés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, d'autres progrès, je ne vais pas tous les dire. 1949, on arrive à mettre en culture le virus de la poliomyélite et donc à faire le vaccin contre la polio qui éradique une maladie terrible. En 1952, la ventilation mécanique à pression positive, ce qu'on va appeler la respiration artificielle, prend place à la suite d'une grande épidémie de poliomyélite au Danemark. Et là, ça va être une véritable révolution. Des gens qui mouraient avant, eh bien maintenant vont être sauvés. On a su l'importance de cette ventilation durant toute, et encore aujourd'hui avec le Covid, et les personnes âgées qui meurent justement d'insuffisance respiratoire et qui sont aidées par la ventilation. Puis vinrent les premières transplantations en 1954 avec le rein, puis le cœur en 1967 avec Chris Barnard, et puis finalement en 1971 on découvre la cyclosporine qui permet de réduire le rejet dans les transplantations cardiaques. Alors que peut-on dire? De 1945 à 1973, l'institution spécifique et médicale ne rencontra aucun obstacle. Les budgets étaient généreux et l'opinion les considérait comme des biens absolus. Oui, des problèmes éthiques, mais l'éthique, on la considérait comme un peu du passé. Et les philosophies de l'époque, positivisme, behaviorisme, psychanalytique, marxisme, etc., rangeaient l'éthique comme des choses, au fond, attardées du monde pré-scientifique. Viennent les années 70 et les inquiétudes des années 70. De grands changements culturels se passent dans les années 60 qui remettent en cause des perspectives les plus fondamentales dans la pensée éthique et morale de la civilisation occidentale. C'est une véritable révolution. Alors, certains des changements vont se faire contre la vie humaine, avec la libéralisation de l'avortement qui part de la Grande-Bretagne en 1967, arrive aux États-Unis avec Roe versus Wade de 1973, qui, elle, introduit tout un changement de perspective. Deuxièmement, la révolution sexuelle, qui va être permise par la pilule contraceptive estroprogestative, qui est développée par le médecin américain Gregory Pincus et qui devient accessible au public en 1958, surtout 60, et en 63, déjà des millions d'utilisatrices utilisaient la pilule dans le monde. En même temps, les percées médicales vont devenir de plus en plus considérables. Et on s'est aperçu, dans les années 70, que ces percées allaient avoir des conséquences pour l'existence des hommes, qui va être considérable, qui accroît son pouvoir, accroît ses cas de conscience. Des situations qui n'étaient pas prévues par les codes éthiques traditionnels apparaissent. Des incohérences de ces codes se révèlent. Et par exemple, on a toute la question des prélèvements d'organes et de la définition de la mort qui est amenée par les transplantations. On a besoin d'organes, il faut savoir à quel moment on pourra recueillir ces organes, donc à quel moment on peut déclarer une personne morte. Mais il ne faut pas attendre trop de temps. Alors, le comité d'Harvard Medical School va établir des critères qui introduisent une nouvelle notion, la mort cérébrale. La mort ne sera plus décidée sur l'arrêt cardiaque, mais sur la destruction du cerveau. Or, ces critères ne furent pas unanimement acceptés, ils ne sont pas toujours acceptés par tous, parce que dans bien des cas, chez ces personnes qui étaient déclarées mortes cérébralement, le cœur continuait de battre à purger l'organisme, à maintenir une circulation, alors qu'on les avait dit en état de mort cérébrale. Autre élément, par exemple, c'est tout le développement de la réanimation. L'introduction de la ventilation pulmonaire artificielle à pression positive en 1952 a fait reculer la mort, a sauvé d'innombrables vies humaines, mais elle a en même temps engendré des problèmes complexes de survie de personnes qui seraient mortes auparavant, mais qui maintenant survivent, mais avec de graves diminutions physiques, de graves handicaps, ou qui se traînent des mois avant de mourir. Et du coup vient l'expression de ce qu'on appelait en France l'acharnement thérapeutique, aujourd'hui on appelle l'obstination thérapeutique déraisonnable. Et les familles qui voient leurs proches, ceux qu'elles aiment, traîner dans un lit sans espoir, se révoltent. Et cela aboutit à une série de procès de ce qu'on appelle le droit à mourir aux États-Unis, avec deux cas particuliers, Karen Quinlan en 75 et Nancy Cruzan en 90. Et on voit encore une fois que les questions, elles viennent d'abord aux États-Unis, avant d'arriver plus tard en Europe. Autre élément, par exemple, le diagnostic prénatal que l'on développe, qui permet de prédire s'il y a eu des malformations dans le fœtus, s'il y a des anomalies génétiques, etc. Alors, mais ce diagnostic prénatal, il vous donne un diagnostic, mais il ne guérit rien. Et alors la science peut mettre en évidence les défauts, mais elle ne peut pas les guérir, et on rentre dans de nouveaux problèmes éthiques. En même temps, la médecine change, et elle devient moins humaine. Elle était une profession d'inspiration chrétienne, animée d'idéaux humanitaires, élevée par un profond souci pour le malade, mais maintenant, cela change. Et les médecins, de plus en plus, ont tendance à devenir, comme on dit, des étrangers au pied du malade. Il y a une distance qui se creuse entre le médecin et le patient. La médecine est devenue plus efficace sur le plan technique. Elle offre pratiquement des réponses à toutes les maladies, mais elle a perdu une partie de sa fascination. Elle était familiale, interpersonnelle, le sein de famille, et maintenant c'est l'hôpital qui prend le relais avec sa qualification technique qui devient de plus en plus le sentiment obligé. Mais du coup, le patient à l'hôpital sont un numéro un peu isolé. Ce qu'on gagne en efficacité technique, on le perd en humanité. Et c'est dans ce cadre que la bioéthique va naître dans les années 70 comme un cri d'alarme. Ce qui va déclencher sa naissance, ça va être tout le développement de la génétique et ce qu'on va appeler l'ingénierie génétique, la capacité à rejoindre dans les années 70 de manipuler le code génétique, le code qui nous donne l'information, le code qui nous permet de fabriquer nos protéines. Et alors, devant ce développement de l'ingénierie génétique, il y a une grande émotion dans le monde. Parce qu'on a l'impression qu'en touchant l'ADN, en touchant cette grande molécule au centre de nos noyaux, on touche au mécanisme même de la vie. Où va-t-on ? Est-ce qu'on n'aura pas quelques virus fous ou bactéries fous qui vont s'échapper comme ça des laboratoires ? Et donc tout un débat s'ouvre qui va aboutir à la création d'un premier centre, la Sting Center, et puis au livre d'un cancérologue, von Rensselaer Potter, Bioethics, A Bridge to the Future, 1971. C'est le premier ouvrage dans lequel le mot bioethics, bioéthique, entre dans le discours. Von Rensselaer veut voir la bioéthique comme un pont jeté vers le futur pour faire communiquer les développements de la médecine avec les humains. Et sa grande idée est que tout le monde doit avoir une parole sur ces développements des sciences biomédicales qui autrement nous échappent et restent l'affaire de quelques experts. Il appelle pour une prise de responsabilité devant des développements peut-être un peu fous de la biologie et de la médecine. En 1971, se crée un grand centre à Washington, à Georgetown, dans l'université des Jésuites d'ailleurs, qui est le Kennedy Center. Et c'est ce Kennedy Center qui va faire passer la bioéthique à un stade universitaire. Et la bioéthique devient une discipline en se dotant de principes de réflexion qui vont être cristallisés dans un livre de Beauchamp et Childress, Biomedical Ethics. Dans cette éthique des principes, on va développer quatre grands principes qu'on reverra plus tard, qui est le bénéfice du patient, la non-inficience, le non-mal, l'assistance, la justice. Et c'est le non-mal qui est principal. Le livre de Beauchamp et Childress a eu un succès considérable. Il a été édité dans toutes les langues et c'est lui qui forme aujourd'hui quand même la base de la bioéthique internationale. Alors, à la suite de quoi ont été créés les comités d'éthique, qui sont des éléments particuliers qui sont destinés à, au fond, orienter les décisions. C'est une espèce de collège invisible, en exprimant un jugement général non contraignant, mais porteur d'une certaine autorité pour guider les assemblées, les gouvernements, vers le développement de lois justes. Elles ont abouti, tous ces efforts ont abouti à l'établissement de conventions de bioéthique internationales. Alors, la principale, il faut bien reconnaître son nom, c'est ce qu'on appelle la Convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe, qui date de 1997. Alors, c'est la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. C'est le seul texte international qui a un impact sur les lois. Nous, tous les pays européens ont signé cette convention d'Oviedo et en premier lieu la France. Une convention qui implique certaines restrictions. On ne peut pas faire n'importe quoi. L'autre déclaration importante est celle de l'UNESCO, la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Et vous voyez déjà, en premier lieu, l'élément principal, les droits de l'homme. En conclusion, eh bien, la bioéthique est née aux États-Unis et est arrivée sur le tard en France. Elle est née dans un contexte de recherche philosophique pluraliste. Au départ, la foi chrétienne y est très présente. Et ces perspectives chrétiennes du bien de l'homme, du respect du malade, de la relation médecin-malade, qui lui donnent son premier élan. Mais en se diffusant au monde entier, cette bioéthique est devenue de plus en plus technicisée et sécularisée. Et alors du coup, elle est devenue plurielle. On dit la bioéthique, en fait, il y a des bioéthiques, suivant les tendances de chacun. Et vous allez avoir une bioéthique de type libéral, on insistera sur la liberté du sujet, j'ai le droit à mon corps, on aura des bioéthiques de type pragmatiste, utilitariste, le plus grand bien pour le plus grand bien de tous, mais il va y avoir des vies qui auront moins de valeur que d'autres. Et on a aujourd'hui toute la question de l'ageisme des personnes âgées qu'on va avoir tendance à moins bien traiter. On va avoir une bioéthique qui va être centrée sur le droit et donc dans lequel la loi va primer. On va avoir des bioéthiques qui vont être plus sensibles à la personne, la bioéthique personnaliste. Et finalement, donc on rentre dans un débat parfois assez confus. Alors, ensuite, les bioéthiques dégénèrent facilement et elles peuvent facilement devenir de simples instruments de justification éthique, des instances de justification. Le gouvernement veut faire telle loi, il va appeler un comité d'éthique pour dire « très bien, on vous bénit ». Et voilà. Et alors, le comité ne vient plus comme instance d'éclairage, mais pour tamponner la loi prévue. Ensuite, les grands organismes de bioéthique, à cause des divisions sur les points de vue, arrivent à ne plus pouvoir toucher les choses essentielles. Prenez le Conseil de l'Europe, qui est très important, mais on n'y parlera jamais d'avortement, on n'y parlera jamais d'embryon humain, on n'y parlera jamais de questions familiales, et on s'orientera sur d'autres choses. Et du coup, eh bien, ça devient un peu futile. Pour finir, il y a un débat, et la bioéthique est basée sur le débat, sur les échanges d'opinions. Le débat peut être fait de façon respectueuse et en évoluant, chacun en apportant ce qu'il peut. C'est un débat constructif, non ? C'est l'éthique du débat. Mais il peut déjà s'orienter vers un système de consensus. Bon, on n'est pas tous d'accord, mais il faut quand même produire un document commun, alors on va faire un consensus, mais on a quand même des regrets, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Et puis, on va arriver, quand on n'est pas d'accord, à une question de majorité. Et c'est ce qu'on a avec nos débats parlementaires. Et alors là, c'est un problème, parce qu'un vote ne peut pas résoudre une question éthique. La morale échappe au vote, échappe au plus grand. En bioéthique, ce n'est pas le fort qui doit dominer sur le faible. Le faible, l'opinion minoritaire doit toujours être respectée. Et nous verrons cela dans les séances futures. Merci bien.
Père Jacques Ciodot, nous avons une auditrice qui souhaiterait vous poser une question. Il s'agit de Lucie. Lucie, c'est à vous.
Oui.
Ah, bonjour docteur, vous prêtez,
oui.
Je l'ai bien entendu. Voilà, moi j'ai une question à vous poser. Comment ça se fait que maintenant de toutes les maladies, on dit c'est génétique, génétique, et ça fait des histoires de famille.
Bien.
Alors que, d'après ce que je viens de comprendre, ce que vous venez de dire, il y a des choses qui sont depuis longtemps déjà sur place. Hein.
Oui.
Je suis une grand-mère, une arrière-grand-mère de deux enfants de 15 ans,
oui.
De trois enfants de 15 ans,
oui.
Dans un gamin déjà. Bon, ça, on peut dire, ça vient un peu de famille, c'est l'abus. On croyait que cet enfant était vraiment, comment vous dire, perturbant, quand on s'est rendu compte que l'enfant, et puis là, on essaye de lui sauver un œil, parce qu'un, il est presque perdu, voilà. Alors tout ça, c'est génétique, après l'autre mot dit génétique, et maintenant, j'ai une jeune qui est très malade, et
d'accord.
Que je ne sais pas si vous trouverez l'histoire, mais il y aurait déjà 400 jeunes en France de cette maladie. C'est une maladie orpheline.
Oui.
Voilà, alors bon. Voilà.
Alors,
c'est pour ça qu'on arrête de nous dire du génétique, génétique.
Oui.
Voilà,
alors,
la vérité.
Il ne faut pas confondre génétique et éthique, ce sont deux choses différentes. Alors, la question, c'est qu'on s'est aperçu, on le soupçonnait, que bien des maladies, en fait, sont transmissibles au long des générations, parce qu'à leur base, il y a des petites anomalies dans notre code génétique, ou plutôt dans l'expression de certains gènes, qui peuvent déterminer l'apparition de certaines maladies ou certaines pathologies. Alors, tout n'est pas génétique, loin de là, mais la génétique a une influence. Alors, il y a des maladies qu'on appelle monogénétiques, alors qui sont très claires parce qu'il y a un gène qui est anormal, qui est porteur d'une mutation pathologique et qui donne une maladie. Vous prendrez par exemple la drépanocytose, la thalassémie, hein, ça sont des maladies, la myopathie, la myodystrophie Duchenne, ce sont des maladies monogénétiques. Et quand on arrive avec une thérapie génique, c'est-à-dire en rétablissant un gène normal, à traiter cette maladie, on gagne. Mais le plus souvent, en fait, les anomalies génétiques sont dites plurigénétiques ou multigénétiques, c'est-à-dire que de très nombreux facteurs génétiques sont combinés ensemble. Alors, chez le père ou chez la mère, ils n'apparaissaient pas, parce qu'ils n'étaient pas réunis, mais conjugués chez l'enfant, du coup, il peut y avoir une maladie qui apparaît. Et alors, dans ces cas-là, très souvent, ces maladies sont de petites... Elle touche quelques personnes sur des milliards. Et donc, on a ces fameuses maladies orphelines. Alors, le problème des maladies orphelines, Prenez par exemple, je prends le cas très classique de l'autisme. Alors l'autisme, aujourd'hui, on s'en aperçoit beaucoup plus chez l'enfant. En fait, il y a de très nombreuses formes d'autisme. Il n'y a pas un autisme qui sera semblable à un autre. Bon, admettons qu'on arrive à traiter une forme particulière d'autisme, on sera loin de pouvoir traiter tous les autres cas. Et c'est donc un peu le problème des affections génétiques. Alors bien sûr, il y a toute une question après dans la prévision, il y a l'espoir de pouvoir corriger ces maladies génétiques chez la personne, chez l'enfant, chez l'adulte, et c'est quand même limité. Et aujourd'hui se posent les questions de manipulation génétique au niveau de l'embryon humain, avec un peu des grandes inquiétudes. Et donc, vous savez qu'en Chine, on a fait naître deux jumelles dont le patrimoine génétique avait été volontairement modifié. Et le monde scientifique a dit « Attention, on ne sait pas où on va comme cela ». Voilà un petit peu ma réponse sur le plan génétique. Tout n'est pas génétique, mais il y a malheureusement quelques maladies, et c'est très souvent très rare, devant lesquelles on est assez dépourvu.
Quelle est malade ? 5 ans ! On vient de trouver la maladie maintenant, 5 ans ! Et c'est une fille qui a 34 ans, hein, et deux enfants.
Oui, oui.
Enfin, je vous remercie beaucoup de votre intervention, parce que vraiment, vous avez donné des choses que je me doute, parce que j'ai quand même bientôt 88 ans. Et je sais bien que tout ce qui s'est passé dans notre famille, tout ça, heureusement. Mais je vous remercie, quand je les entends quand même, comme je vous ai dit, on a un problème familial à rapport à ces génétiques, et c'est mon père, et c'est ci, c'est l'autre, non, c'est plus possible. Allez, je vous remercie beaucoup.
Bonne journée.
Merci.
Bonne journée à vous. Merci beaucoup, et merci à Radio Maria. Merci.
Merci aussi. Au revoir. Alors, nous avons reçu également un message de Monique qui écrit simplement « Merci beaucoup, Père, pour ce riche exposé scientifique qui m'a beaucoup appris ». Donc, c'est signé Monique. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Peut-être une dernière question, Père Jacques Ciodo. Est-ce que vous pouvez peut-être, parce que vous êtes prêtre, mais donc vous êtes on sent que vous avez beaucoup de connaissances sur la bioéthique. Est-ce que vous pouvez peut-être dire quelques mots sur votre parcours et sur vos missions ?
Oui. Moi, je suis médecin. Hein. J'ai fait chirurgie à Grenoble. Après, personnellement, j'ai fait de la recherche dans le domaine chirurgical, dans le domaine des transplantations et des conservations d'organes aux États-Unis, où j'ai été quand même une dizaine d'années. Et puis, donc il y a une certaine expérience spirituelle qui m'a amené à changer d'horizon et à faire des études de théologie et à devenir prêtre en 1980, mais avec toujours un petit peu un grand intérêt dans le domaine médical. Et donc, j'ai été ensuite à Rome, où j'ai passé 20 ans au Conseil de la Famille et puis surtout à l'Académie pour la Vie, où l'on, justement, on s'occupe de ces questions de bioéthique.
Eh bien, merci beaucoup, Père Jacques Ciodo. Et puis, on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et continuer ce parcours sur la bioéthique.
Bien, merci bien. Bonne journée.
Merci. Au revoir.